Bonjour à tous. Alors, le thème de notre discussion de 13h, donc, c'est peut-on doper ou peut-on booster son intelligence ou peut-on devenir plus intelligent ? Donc, la manière dont la thématique a été libellée, vous avez dû le lire, je vais le rappeler. Le rêve de l'homme augmenté n'appartient plus désormais à la seule science-fiction. Les extensions sensorielles comme les implants mémoriels sont une promesse de la technologie du 21e siècle, grâce aux progrès phénoménaux, comme chacun sait, de l'informatique. Mais l'intelligence, la capacité même à comprendre le réel, à interagir pour les meilleurs avec les autres, peut-elle être dopée, augmentée, voire garantie par un contrat commercial ? Donc on est là à la fois pour discuter de ce qu'est l'intelligence, de savoir si aujourd'hui, notamment via les implants et les interfaces homme-machine, on va pouvoir les augmenter, de voir qu'est-ce qu'en dit la science-fiction, qu'est-ce qu'en dit la science, qu'est-ce qu'en dit la science-fiction, qu'est-ce qu'en disent des auteurs, qu'est-ce qu'on peut en penser, y a-t-il des dérives, et tutti quanti. Alors nous avons, donc à cette table, nous sommes donc quatre, avec donc trois invités que je vais vous présenter. Alors, je vais faire ça dans l'ordre. Donc, à ma gauche, Catherine Dufour, qui est connue en fait pour ses romans, que ce soit d'ailleurs de la fantasy humoristique, de la science-fiction décapante, qui est connue en particulier pour Le goût de l'immortalité, qui est un livre qu'elle a écrit, je crois, qui est sorti en 2005 et qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006, si je ne m'abuse, qui a été écrit d'ailleurs de manière très fortement inspirée par Marguerite Yourcenar. Et qui est l'histoire d'ailleurs d'une. C'est un livre qui est raconté à la première personne, qui se situe en 2304. Et c'est d'une sorte de vieille. Est-ce que c'est une vieille dame qui se raconte elle-même? Et c'est un livre assez. Où on y retrouve des clones, des trafics humains. Alors, peut-être pas exactement beaucoup d'implants, mais. Bien que. Voilà, hein, on n'est pas loin de notre sujet. Elle a écrit évidemment beaucoup d'autres ouvrages, un recueil de nouvelles qui s'appelle « L'accroissement mathématique du plaisir » en 2008, un autre roman assez étonnant qui s'appelle « Outrage et rébellion ». Et quand j'ai préparé en fait cette table ronde, je suis tombé sur une nouvelle qui s'appelle « L'ennemi en moi », plus récente, de septembre 2013, donc de Catherine. Et je ne vais pas vous la lire, mais elle y met en scène, comme souvent, des personnages qui parlent à la première personne, et notamment un professeur qui dit « Moi, je ne suis absolument pas pour qu'on implante des puces sous la peau des gosses, mais est-ce que j'ai le choix ? Quand on sait qu'on va changer son propre programme sous sa propre peau pour modifier son champ de vision, on peaufine le travail, vous voyez ?» Donc voilà, pour vous expliquer, pour donner un peu un aperçu. Donc à côté de Catherine... Armelle Rancillac. Armelle Rancillac est une scientifique, est une chercheuse en neurobiologie. Elle est chargée de recherche au laboratoire de neurobiologie de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris Tech, qui est une branche, je crois, de l'INSERM, vos recherches dépendent de l'INSERM, hein, c'est-à-dire de l'Institut, pour ceux qui ne le savent pas encore, National de la Santé et de la Recherche Médicale. Alors, elle a beaucoup travaillé en neurobiologie, elle travaille, elle, sur les mécanismes de la mémoire, les mécanismes du cerveau, notamment sur des souris. Il faut savoir aussi qu'elle est auteure, hein, et qu'elle l'a sorti il y a très peu de temps, cette année, un livre qui s'appelle Alice 2630, et qui se passe justement en 2630, comme vous l'aurez imaginé. Et là, pour le coup, la logique des implants, il n'y en a pas qu'un seul, est assez présente. Et donc, la logique de l'intelligence et de la façon dont on pourrait s'augmenter, on va dire, est une sorte de décor, on pourrait dire, hein, du livre permanent. Enfin, Walter John Williams, qu'on ne présente plus, que vous avez dû voir sur cette estrade à quelques reprises. Alors, il est connu pour beaucoup de livres, dont Câblé, Hardwired, en anglais, Le souffle du cyclone, la série des plasmas, qui est une sorte d'énergie en fait assez étonnante. Ces derniers livres parus aux États-Unis n'ont pas encore été traduits, j'espère qu'ils le seront. Fourth Wall, qui est une métaphore autour de l'industrie du divertissement, Deep State, voilà. Et s'il est là, effectivement, c'est parce que dès 1986 dans Câblé, que j'ai ici donc en version Présence du futur, eh ben, il mettait en scène, alors là encore, toutes sortes d'implants, d'une façon assez classique, comme dans la littérature cyberpunk, il y a des publicités qui sont intégrées au sein donc du roman. Pour débuter, je vais en lire deux, et après nous rentrerons enfin dans le cœur du sujet. Première publicité qu'on trouvait dans Câblé. Pas question de vous prétendre un cyborg tant que vous n'aurez pas essayé un implant corps moderne, indétectable, vous donne la capacité de tenir toute la nuit, plus orgasmique en option, votre partenaire vous en remerciera. Voilà. Alors, est-ce, vous voyez que là, l'implant ne sert pas uniquement à l'intelligence, mais à d'autres activités chéries des humains. Autre publicité que je vous dis quand même pour vous mettre dans l'ambiance. Gardez en permanence le contact avec votre portefeuille, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Nos dérivations nerveuses, audio, visuelles, deux voies pure platine vous permettant de rester en contact avec votre robot courtier 24 heures sur 24. Alors c'est moins sexy, hein. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'intelligence, mais c'est un autre type d'implant. Personnellement, être en contact permanent avec mon banquier, j'aimerais pas trop, mais bon, c'est pas le débat. Alors, nous allons donc démarrer cette discussion avec Armelle Rancillac, donc, pour qu'elle nous explique, puisque là on vient de parler donc de ces implants, on vient de parler de cette intelligence. Bon, non, on va commencer par elle, mais d'abord, avant de parler des implants, chose à notre sens importante, on va tenter de voir quelles sont nos définitions de l'intelligence. Donc Armelle va commencer, puis après nous aurons Catherine et ensuite Walter, et chacun d'entre eux va donner sa définition de l'intelligence ou ses définitions, voire celle de ses personnages, ne serait-ce que pour comprendre de qu'est-ce qu'il est question de doper. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il est question de doper, quel type d'intelligence. Donc Armelle, l'intelligence.
Donc, allô, c'est bon. Donc moi, l'intelligence, effectivement, je la décline au pluriel parce que je la vois vraiment comme multiple. Et pour qu'on puisse définir quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire que ça va être une personne qui aura développé ces différentes facettes que représentent les intelligences pour former une intelligence. Donc la première intelligence à laquelle tout le monde pense, je pense que c'est l'intelligence logique qui est souvent mesurée avec l'aide du QI, que tout le monde connaît très bien. Mais il ne faut pas du tout sous-estimer tous les autres types d'intelligence, en particulier donc l'intelligence spatiale, qui est vraiment utilisée par tous les artistes pour bien se représenter donc l'environnement dans lequel on est et le retranscrire donc sous forme de dessins, de sculptures ou autres formes d'art. Il y a également l'intelligence sociale, qui est donc l'interprétation de son environnement pour décrypter les codes des gens qui sont en face de nous et adapter un comportement adapté à son environnement, qui englobe aussi l'intelligence, je dirais, sexuelle et émotionnelle, c'est-à-dire vraiment rentrer en contact adapté avec son environnement. Une intelligence dont on ne parle pas beaucoup, qui est la kinesthésie, c'est-à-dire comprendre son corps et l'adapter à l'environnement, comme tout le font les grands sportifs, c'est-à-dire pour viser du fond du court le panier de basket avec le ballon dans sa main, développer la bonne force musculaire dans la bonne direction. C'est aussi une forme d'intelligence qu'il ne faut pas sous-estimer. L'intelligence, bien sûr, verbo-linguistique, donc, qui permet de s'exprimer et d'exprimer correctement ses pensées, ce qui est très important pour communiquer avec les autres, comme je le fais actuellement, j'espère. Il y a aussi l'intelligence musicale, donc retranscrire en mélodie peut-être certaines formes de pensée, comme l'ont fait les grands compositeurs. L'intelligence naturaliste, donc observer son environnement, arriver à reclasser les objets dans leur contexte, comme l'a fait Darwin. Et enfin, l'intelligence philosophique, c'est-à-dire prendre du recul par rapport au monde extérieur pour essayer donc de se questionner sur ses origines et sur ce qu'on fait sur Terre. Et je pense que la vraie intelligence, ça va être de combiner toutes ces formes d'intelligence dans des proportions équilibrées, c'est-à-dire pour ne pas être un génie, ne développer non pas qu'une seule forme d'intelligence, mais toutes ces intelligences pour arriver à s'extraire des codes de la société et aller au-delà pour acquérir une liberté. Et c'est ce que j'ai voulu dans mon personnage principal dans Alice de 1630, qu'elle acquiert donc cette intelligence et la liberté.
Si on arrive à faire tout ça avec des implants, c'est quand même bien parti. Donc, Catherine, votre version de l'intelligence.
Bon, alors moi, évidemment, ça va faire un peu pauvre après définition aussi complète. Donc, pour moi, l'intelligence, la première chose, c'est la rapidité. Il faut arriver à trouver 4 en faisant 2 plus 2 en moins d'une demi-seconde. Et ensuite, il faut savoir faire quelque chose de cette rapidité et donc avoir savoir faire des libres associations pertinentes. Le propre de l'homme, c'est vraiment ça. Et troisièmement, l'intelligence, pour moi, a comme socle une certaine confiance en soi. Donc, il faut admettre la multiplicité des points de vue. Donc, pour ça, il faut déjà être solidement assis sur ses deux fesses. Donc, pour moi, l'intelligence, c'est beaucoup de psychologique. Il faut savoir que avant Freud, il y a un type qui avait développé exactement la même théorie que lui, sauf qu'il avait dit que les maladies mentales pouvaient être caractérisées par des blocages de l'intelligence. Freud, là où il a eu du succès, c'est qu'au lieu d'appeler ça blocage de l'intelligence, il a appelé ça névrose. Et du coup, les gens, ils sont vachement moins vexés. Parce que si on vous dit vous êtes névrosé, ça passe mieux que si on vous dit sur tel sujet, vous êtes vraiment totalement stupide. Voilà, donc je pense que en ce qui concerne les implants et le fait de booster l'intelligence, en quantité et en rapidité, on va réussir à faire. Mais par contre, est-ce qu'on va réussir à garder une cohérence entre les différentes intelligences, comme le disait ma voisine? Une fois qu'on aura une énorme mémoire et qu'on réfléchira à toute allure, on peut très bien finir dans le mur ou dans des sottises épouvantables parce qu'on aura tout à fait oublié de se soucier de la cartographie mentale qu'il y a derrière. Voilà. Et ça a été quelquefois exploité en science-fiction. Je me souviens du premier film Wrath of Khan, c'est le Star Trek 2 qui date des années 80, où à la fin ils arrivent quand même à faire la peau de Khan parce que même s'il est très intelligent, il n'a qu'une vision 2D parce qu'il a été élevé dans notre monde où quand on conduit une voiture, c'est toujours sur un plan. Et il n'a pas la vision 3D que peut avoir Kirk dans son Enterprise. Donc globalement, Kirk, hop, il passe sous son vaisseau spatial et il arrive à le feinter. Donc une forme d'intelligence déterminée par une origine temporelle qui fait qu'il n'est plus adapté au monde dans lequel il évolue. Et on retrouve exactement la même chose dans Alien 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, où tous les gens ont un détecteur de mouvement, les aliens arrivent, ils sont à 10 mètres derrière la porte, et puis ils sont à 5 mètres, et là, logiquement, ils devraient les voir, et ils ne les voient pas, et ils paniquent, et en fait, c'est que les aliens sont soit au-dessus, soit au-dessous. En gros, ils ont eux aussi toujours une vision 2D, et non pas une vision 3D, et ils se font tous dessouder. Voilà, c'était ma définition d'intelligence.
Voilà, donc c'est une définition, vous voyez, hein, il va falloir de plus en plus d'implants, et de plus en plus variés, visiblement. J'en arrive à Walter. Alors, quelle est votre définition à vous de l'intelligence, en fait, avec ou sans câble?
Ah, all right. I'll start with basic intelligence. I think intelligence is the ability to exist outside of time. If you look at most animals, they exist only in the present. If it's a very simple animal, it exists solely in a world of stimulus and response. As animals get larger and more complex, they begin to develop other sorts of intelligence. They can remember where a trauma occurred, for example, and try to avoid the source of that trauma. They can remember where to find food and try to find food there. But for the most part, they are still living entirely in the present. Very large animals, whales and elephants, apparently have something like a detailed memory of their past. But I think what distinguishes human beings is that we have a very detailed memory of our past, and we can live outside of our present, re-experience and reimagine our past. We can imagine the future in some detail, either to plan our future activities or to write science fiction novels. So I think basic human intelligence has a lot to do with time and our ability to mentally exist in and outside of it.
Mais pourtant, les écureuils, ils arrivent à faire des stocks de provisions en vue de l'hiver, donc ils arrivent à anticiper un manque de nourriture et du coup à se projeter un petit peu dans le futur. Peut-être que c'est un manque de nos capacités d'analyse des comportements animaux, d'essayer de comprendre qu'effectivement, eux aussi arrivent à s'émanciper dans le passé, le futur, et qu'on n'arrive pas à décoder ces informations.
Yes, I think so, but squirrels cannot make detailed lists of where they keep their nuts. They also lose a lot of their nuts. They forget where they put them. And they cannot share with other squirrels the ability, these resources. They can't tell another squirrel where they've stored their nuts in case that other squirrel is happy. So that is part of the function of culture, is that we can exchange this information between ourselves. I can describe my past to you. You can describe your past to me. We can describe our visions of the future, which is what we're doing on this panel.
Bon, donc voilà, on a fait un petit tour, donc je l'espère intelligent, sur l'intelligence. On va maintenant se poser la question centrale, puisque j'ai du mal à faire maigrir mon bidon et à me diminuer. Essayons donc de nous augmenter, voilà. Et essayons de nous augmenter intelligemment, donc en quelque sorte, de nous rajouter quelques neurones ou autres. Alors, comme nous sommes des gens sérieux, on va se tourner vers Armelle, cette fois-ci en tant que chercheuse, hein, et non pas en tant que romancière. Et on va essayer de voir avec elle où en sont les dernières recherches sur les interfaces cerveau-machine, sur ces implants qui potentiellement peut-être peuvent guérir ou rendre certaines personnes ayant perdu un peu d'intelligence un peu plus intelligentes, ou des gens comme vous tous qui êtes déjà très intelligents, encore plus brillants. Donc, Armelle, où en sont ces recherches donc sur cette question de la mémoire, de l'intelligence et de la capacité que nous aurions par la technologie, parce qu'après il y a peut-être d'autres méthodes, à augmenter notre intelligence?
Alors tout d'abord, avant de parler des implants et tout ce qui va avec, je tenais juste à mentionner une étude qui vient de sortir dans Science, qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont montré dans une certaine population d'Américains que la moitié des personnes étaient infectées par un virus qu'on pensait spécifique d'une algue et qui ralentissait un peu les fonctions cognitives et les performances intellectuelles. Et donc, il se pourrait qu'avec la technologie, les développements plus en plus pointus qu'on peut en faire, qu'on arrive à améliorer nos performances cognitives tout simplement en éliminant des freins qui naturellement existent dans nos individus, premièrement. Ensuite, effectivement, avec des implants, je pense qu'on pourra très facilement et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense augmenter nos performances. C'est ce qui est fait déjà depuis les années 90 avec les implants rétiniens, ce qui concerne pour le moment uniquement les aveugles, et ce qui permet de restaurer, bon, d'une façon assez primitive, mais quand même un peu la vue, ce qui est très précieux pour les aveugles. Mais on peut penser à terme qu'avec des implants de plus en plus efficaces et performants, on puisse avoir des super Google Glass directement implantés au niveau de la rétine et qui soient beaucoup plus confortables à porter que des lunettes ou des lentilles de contact. Ensuite, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, ça a déjà été fait chez le rongeur, mais pas encore chez l'homme à ma connaissance. On a déjà mis des implants, des grilles d'électrodes au niveau de l'hippocampe et même du cortex moteur. Au niveau de l'hippocampe, c'est tout ce qui permet l'encodage de la mémorisation, en particulier de la mémorisation spatiale. Et on s'est aperçu que ça pouvait améliorer les performances de mémorisation spatiale chez les souris. Donc, ça c'était des expériences en 2011, donc ça fait quand même déjà plusieurs années. On peut mettre des implants, bon, c'est chez des rongeurs, et augmenter les performances et les capacités mnésiques des individus, enfin des animaux. Concernant les tétraplégiques aussi, on a fait un petit peu, on a essayé d'améliorer leurs conditions de vie en faisant des implants dans le cortex moteur pour essayer qu'ils se retrouvent une motricité. Bon, c'est pas encore spectaculaire, mais c'est un bon début. Et je pense qu'effectivement, on commence par les gens atteints de certaines pathologies spécifiques, motrices ou cognitives, Alzheimer ou Parkinson. Et progressivement, on va arriver à l'homme augmenté par ces biais-là, le développement progressif, pour arriver, je pense, en 2630, à vraiment une interface cerveau-machine, mais pas du tout sur l'ordinateur amélioré, une intelligence artificielle externe à l'homme, mais vraiment incorporé. Le smartphone se rapproche de plus en plus de nous et on sera bientôt vraiment une telle inside, je pense.
Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la Coupe du Monde de foot, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, sauf une chose, c'est qu'à l'ouverture de la Coupe du Monde, il y a un grand chercheur brésilien qui s'appelle Miguel Nicoquelis qui a réalisé quelque chose avec des implants. En fait, il a fait en sorte qu'un paraplégique qui n'avait plus le contrôle de ses jambes, grâce à un implant dans la tête puisse taper le ballon de foot. Et ça a été, alors personne n'a vraiment remarqué, mais ça a été en fait une sorte d'exploit scientifique mis en scène avec cette logique d'implant dans cette logique de l'homme réparé. Voilà, donc et ça c'est effectivement le premier rapport, quelque part, si je ne m'abuse, Armel, donc de ces travaux scientifiques, dont celui de ce chercheur brésilien, donc réparer l'humain. En l'occurrence, réparer notre cerveau. Hein, et les capacités aussi à notre cerveau de communiquer avec différentes parties de notre corps, dont potentiellement, pour ce paraplégique dont je parlais, des parties qui vont être des parties, on va dire, mécaniques, des parties fabriquées, puisque c'est effectivement, pour arriver au fameux cyborg que nous voulons tous devenir, un élément assez essentiel que la communication entre nos différents membres réels et réels de manière un peu différente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres recherches sur les implants qu'on peut citer? En tout cas,
on a dit Parkinson aussi, ouais. On met des stimulations profondes et on arrive à stopper totalement les tremblements, ce qui est quand même assez confortable pour les patients.
Il y a des TOC aussi qui sont bien bien soignés par stimulation. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est du nerf vagal ou ça marche de façon tout à fait étonnante. Alors les gens se promènent en permanence avec un petit boîtier, mais j'avais vu comme ça une femme qui était strictement incapable de vivre seule parce qu'elle avait un TOC qui l'obligeait à boire la dernière goutte de son verre toute la journée. Donc elle passait la journée comme ça, à essayer de choper la dernière goutte dans son verre de café. Et qui se regardait faisant ça sur une vidéo. Elle était, ma foi, totalement insérée, totalement contente, totalement épanouie. Parce qu'on lui avait fait effectivement un implant qui a réglé mécaniquement le problème. Et aussi, je voulais signaler, alors c'est pas vraiment un implant, c'est une opération, je comprends pas qu'on n'ait pas fait une fête à tout casser pour fêter ça. Ils ont implanté, je crois, des cellules du nez dans la colonne vertébrale d'un type qui avait perdu l'usage de ses jambes suite à une rupture de la moelle épinière, et il a récupéré ses jambes. Et c'est extraordinaire parce que je crois que c'est la première fois qu'on arrive vraiment à faire repousser de la colonne vertébrale. Et ça date d'il n'y a pas longtemps du tout.
Walter? Okay, no. Something to say, Walter?
Well, I was going to say that when I began to write about this over 30 years ago, there was very little information available, so I was able to invent quite a lot. And I was told at the time that it was all completely impossible on panels like this. The experts would tell me that the mind-machine interface was a complete impossibility, and yet here we're having variations of it. The type of implants that I invented for my stories were of a couple kinds. One was simply to collect information, and you could think of it as a sort of mental connection to the internet, which didn't exist then either, but was able to provide information to the characters. Other was to enhance basic human capabilities, as you mentioned in your little opening there, but also to, say, for instance, enhance your reflexes, give you better vision, that sort of thing, to completely replace the eyeball with something that was a lot more versatile, that could see in the dark, that had a telescopic effect, that could look at something very close up. All these are much more within the realm of possibility now.
Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas et qui ne suivent pas l'actualité de la question, et pour bien montrer comment des questions qui étaient auparavant de l'ordre de la science-fiction, notamment à l'époque où a été écrit Câblé en 1986, donc à l'époque cyberpunk, hein, de Walter John Williams, tout récemment, des chercheurs, qui sont d'ailleurs liés à des sociétés privées, ont réussi à créer une communication télépathique grâce à des systèmes interface homme-machine. Entre, il y en avait un qui était en Inde, l'autre qui était à Strasbourg. Et ils ont réussi à s'échanger en fait en télépathie, sans qu'il y ait aucun mot. Bonjour et au revoir. C'est très pratique puisque ça a pris 2 heures, 1 heure par mot. Mais en revanche, c'était une vraie communication télépathique, de la même façon que des chercheurs très sérieux. Hein, non seulement ils disent qu'à terme on pourra communiquer par télépathie. Hein, le chercheur que j'ai cité le dit très clairement. Mais ils disent aussi qu'on pourra potentiellement faire de la télékinésie, mais par la technologie pour le coup, et ça, c'est une nouveauté.
En fait, pour décrire et décoder les signaux neuronaux, on parle beaucoup des implants, mais l'inconvénient, c'est que c'est très invasif, Et donc c'est dangereux parce que c'est la porte ouverte à l'infection de tous les pathogènes qui sont autour de nous. Et l'autre technique consiste à décrypter les signaux électriques en mettant donc des capteurs tout autour du cerveau, qui sont beaucoup moins invasifs, mais un peu plus complexes dans l'interprétation des données, et parce que c'est difficile de décrypter tous les signaux sous-jacents. Mais de plus en plus, on arrive dans des tâches comportementales à enregistrer les données, à comprendre les réseaux neuronaux qui sont activés et du coup à les reproduire. Et quand on les reproduit, du coup, ça permet une interprétation de ce qui était à l'origine du signal. Moi, dans mon laboratoire, j'ai un collègue, il arrive comme ça à enregistrer les souris qui se déplacent dans un environnement spatial bien codifié. Donc l'animal apprend à s'orienter sur une plateforme, il a des indices visuels. Il enregistre dans l'hippocampe donc les cellules qui vont décharger spécifiquement quand l'animal est à des régions bien précises, parce qu'il y a des cellules comme ça qui permettent de se repérer dans l'espace. Et ensuite, pendant le sommeil, il réactive une cellule en particulier donc qui va correspondre à un lieu en particulier. C'est Karim Benchenad, c'est vraiment un grand chercheur, je tenais à préciser son nom parce que c'est lui qui a fait tous ses travaux. Pendant le sommeil de ces animaux, il va stimuler en même temps une autre région du cerveau qui fait partie de tous les systèmes de récompense, et donc associer ce lieu à une notion de plaisir. Et donc l'animal, une fois qu'il sera réveillé, va essayer de rechercher ce plaisir et donc aller directement à l'endroit où la cellule a été stimulée pour essayer de retrouver le plaisir qui était associé. Et donc Karim Benchenad, comme ça, arrive à créer des souvenirs artificiels chez l'animal. Donc on peut penser qu'en décodant comme ça les processus mnésiques chez l'homme, on arrive à terme à manipuler totalement les comportements.
Pour info, je ne sais pas si vous avez... Ah, ça vous fait rire. Bravo. Mais pour info, parmi les romans cyberpunk, il y a Privé de désert de Alec George Effinger, qui mettait en scène les papis et les mamies, qui étaient des implants qu'on s'en fichait, soit pour apprendre par exemple à parler suédois, soit pour changer de personnalité. Donc on voit là encore qu'on n'est pas loin en fait, hein. Bon, sauf que je ne sais pas si des gens aimeront se transformer en Jacques l'Éventreur, comme dans ce fameux roman Privé de désert, mais en tout cas, voilà, hein, on y est déjà.
Dans la maladie de Parkinson, des fois, il paraît qu'il se trompe un petit peu et ça ne calme pas les tremblements, ça change juste la personnalité. Donc ça arrive.
Alors là, donc, on a parlé, on voit bien que pour l'instant, les recherches sont en tout cas assez liées à la question médicale, à la question de la santé, à la question de l'homme réparé, mais ces chercheurs aujourd'hui, assume complètement pour certains d'entre eux, comme celui dont on a parlé, hein, comme ce Brésilien, le fait que ces implants serviront demain pour notre bien-être, pour augmenter notre intelligence. D'ailleurs, il y a aujourd'hui déjà des électrodes qui existent, hein, on peut se mettre des casques à électrodes qui servent à entraîner son cerveau, je crois, hein, essentiellement. Mais c'est pas encore très efficace.
Pas trop.
Voilà, bon. Mais alors, est-ce que effectivement, on va, à plus ou moins long terme, vers une commercialisation? Alors, des implants qui peuvent être soit invasifs, soit au contraire être par exemple des fiches qu'on peut se mettre. Il y a les puces aussi qu'on pourrait se mettre plus ou moins sous la peau. C'est clair que la plupart des chercheurs disent que ça marchera mieux si c'est pas trop invasif, c'est-à-dire si ça rentre pas trop dans notre corps. Où on en est alors? Est-ce que oui ou non, la perspective de la commercialisation de ces outils précieux se présente?
Il y a beaucoup plus de plus en plus de brevets qui sont déposés dans ce domaine-là. Donc si on en croit le dépôt de brevets, on peut penser que les applications vont suivre. J'avais lu récemment qu'ils ont déposé un brevet juste pour implanter une vis transcrânienne. Donc on ne sait pas trop encore ce qu'il y aura derrière cette vis, mais ce serait une voie d'entrée très contrôlée dans le cerveau pour faire des entrées à suivre.
Catherine, qu'est-ce que ça...
Oui, pour ce qui est manipuler le cerveau, ça me paraît délicat, parce qu'il existe 100 neurotransmetteurs, on en connaît 10, on sait en synthétiser 4. Et on en est encore drôlement au niveau de la mécanique agricole pour ce qui est de soigner les psychoses profondes. Donc je ferai pas ça, en tout cas pas tout de suite, dans l'état de notre état de méconnaissance de la neurologie. C'est un avis personnel.
Mais Armel, justement, si votre livre se passe en 2630, c'est parce que vous pensez que tout ça ne sera vraiment efficace qu'en 2630?
Ah bah tout à fait. Non, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut quand même laisser le temps de mieux comprendre tous les mécanismes cérébraux. Il y a encore... moi, à chaque fois, je suis effarée à quel point on ne sait rien sur le cerveau. Plus j'ai l'impression d'apprendre, moins j'ai l'impression de savoir des choses. Mais c'est pas grave, je perds pas confiance et je continue à essayer d'en savoir davantage. Mais je pense pas que le cerveau soit quand même trop complexe. J'ai quand même espoir que un jour on arrive avec suffisamment d'électrodes à suffisamment d'endroits, arriver à peut-être mieux comprendre comment on peut fonctionner. Et en 2630, c'est quand même dans 600 ans, ça laisse une petite marge de progression. Après, ce qu'il ne faut pas perdre d'esprit, c'est que les électrodes qui, pour l'instant, servent à stimuler notre cerveau, enregistrer dans des buts thérapeutiques, pourraient à terme être utilisées à d'autres fins. Parce que le contrôle à distance serait possible de ces électrodes.
Walter, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette concrétisation de ce qu'ont été certaines de vos idées en fait, il y a maintenant 1986, ça fait du temps quoi. Il faut que je me prenne un plan parce que là ma mémoire flanche, ou alors c'est mon j'arrive plus à compter.
Walter, I seem to remember that bark that far, fortunately, because I can live outside of time. Yes, these were all possibilities that I raised. I was fortunate in being able to set the work in the future so that I didn't have to deal with all of the technical issues. And there are also, of course, great ethical issues as to how far you can experiment on a human subject. And so I think probably the best way to get around that is to develop the best model of the brain that you possibly can. And then be able to sort of operate on that. Again, being a fiction writer, I can assume that these problems are conquered in some way, and I can go on to explore the possibilities. In one book, Aristoi, I had a future in which people could essentially fragment their own personalities. They deliberately inflicted a multiple personality disorder on them, although with them it wasn't a disorder. If you actually have the psychological or medical condition of multiple personalities, which is very, very rare, you have many personalities, but there is no one in command. And that's the problem with that situation. But in my book Aristoi, I assume that they had a way of doing it where there was a primary personality that could stay in command. Each of the subsidiary personalities were developed more fully through cybernetic implants, and because they were all different, they were all good at certain things. So some were very good at detail work, could be assigned to that. Some were very artistic, could be assigned to create artistic creations. Others were very good at analyzing human communication, kinesics, and so on. Others were just very good at theory. And so you had a single individual who could multitask in many ways that contemporary individuals cannot.
Alors, on va pouvoir doper son intelligence et toutes ses intelligences, Armel ? C'est finalement ce que sous-entend potentiellement Walter ?
Si on veut vraiment devenir intelligent, il faut tout arriver à les augmenter de manière homogène et pas déséquilibrée, sinon on va tomber dans des types Asperger qui sont spectaculaires, mais peut-être pas vraiment adaptés à la vie en civilisation. Cela dit, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on essaye aujourd'hui de modéliser le cerveau humain. Il y a un grand projet, The Human Brain Project, où on essaye de modéliser, donc en regardant comment est constituée une colonne corticale, donc en regardant toutes les connectivités qu'il y a entre les neurones, mais il y a encore beaucoup de présupposés, beaucoup d'hypothèses, on est encore vraiment très loin d'arriver à modéliser le neurone, le cerveau, même un neurone, je ne sais pas si...
Donc, d'ailleurs, sachez que le Human Brain Project cherche encore beaucoup de sujets d'expérimentation, donc si ça vous intéresse...
Bon, donc, mais ceci dit, il y a quand même, Catherine, il y a quand même plein de façons d'augmenter son intelligence ou de la transformer. Hein, on n'a pas parlé des drogues, on n'a pas parlé d'autres moyens. Est-ce que, d'une certaine manière, il ne faudrait pas mêler les genres et ne pas de faire confiance qu'à la technologie ? Est-ce qu'un peu de yoga, par exemple ?
Oui, de toute façon, à partir du moment où on parle de doper son intelligence, il faut voir les choses en face. Si c'est fait pour le faire, il faut des moyens. Globalement, ce genre de choses est toujours faite par l'armée. Alors on en pensera ce qu'on voudra, mais je crains que toutes les recherches en ce sens-là n'aient pas toutes pour viser de développer le nombre d'artistes en ce monde. Je pense notamment à... Alors, je ne me souviens plus du nom du produit qui avait été beaucoup utilisé pendant la Blitzkrieg par les Allemands. Ils carburaient tout ça. Je ne sais plus le nom du truc. C'était une amphétamine quelconque et ils avaient remarqué que c'était merveilleux parce que vous donnez ça à un soldat et il a une patate d'enfer, il ne dort plus, il ne mange plus, il ne boit plus, il marche et il tue sans se poser de questions et en rigolant. Et il y a pas mal de témoignages, effectivement, de bataillons, de jeunes Allemands qui étaient pétés de rire. Alors après, plus dur, bien sûr, est la chute. Je crois qu'ils ont consommé 1 million de ces pilules en 39, et puis en 41, ils n'en consommaient plus du tout, parce qu'ils étaient tous devenus complètement barjots. Ils l'étaient déjà avant, c'est vous dire à quel point ça attaque. Donc ça a été... les drogues ont été beaucoup utilisées pour améliorer les performances, j'ose pas dire l'intelligence en la matière. Mais les drogues, on appelle ça les paradis artificiels, c'est bien parce qu'il y a un choc en retour. C'est une chose qui va toujours vous demander, faut payer, et ça vous demande toujours de payer un poil plus que ce que vous êtes capable d'aligner. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est pas une bonne idée. Parce que le jour où on aura trouvé vraiment une substance qui permet de doper son intelligence sans vous transformer 24 heures plus tard en légume vagissant, on n'appellera plus ça une drogue, mais juste un remède miracle.
Walter, un petit dopage comme les cyclistes du Tour de France?
Yeah. I know of one case of a friend of mine who is a medical doctor and who went back to school for an update on certain technologies, and she went to a panel of several well-known neurologists, and they announced that they had developed a drug that would enable someone to do without sleep indefinitely, thus adding an extra 8 hours of productivity to their day. And they discussed this in some detail, and my friend said, well, how many of you are taking this drug right now? And they all did. So, I think shortly we'll see whether they all go insane or not. it's certainly one of my fantasies to have more hours in the day. I'd like to see that made available, preferably safely.
Effectivement, le modafinil est une drogue qui permet de rester éveillé beaucoup plus longtemps, sans phénomène de rebond, c'est-à-dire qu'après on n'a pas besoin de récupérer et de dormir plus longtemps. Cela dit, moi, je ne suis pas trop adepte de tout ce qui est drogue parce qu'à long terme, on s'aperçoit toujours qu'il y a une contrepartie, des effets secondaires, et c'est jamais aussi propre, je pense, que ce que pourront faire les implants. Mais bon, après, on ne sait jamais.
Voilà, donc un point positif sur les implants, donc ils sont plus propres que la marijuana. Ou qui nous rendent plus intelligents, ça c'est le débat. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait craindre? Je veux dire, est-ce que la crainte, c'est que tout ça soit juste une question de commerce? Est-ce que la crainte, pour vous, ce serait plutôt... que cette recherche d'intelligence n'arrive qu'à doper notre bêtise? C'est quoi votre crainte, en fait, par rapport à ces implants et par rapport à cet avenir potentiel aux uns et aux autres?
Moi, je me souviens d'une phrase de Thomas Day qui disait... là, c'était pas le boosté intelligence, c'était le génie génétique. Il disait, le génie génétique, c'est pas pour améliorer les gens, c'est pour améliorer les riches. Donc, oui, le gros problème, ça veut que ça va être coûteux et ça serait réservé à une toute petite élite qui va se sentir encore plus élite qu'elle ne l'est. Ce qui est déjà à la base un signe de sottise. Donc oui, ça va pas être facile. On risque de devenir bêtement plus intelligent.
Armelle.
Tout à fait d'accord à ce que vous venez de dire. Et en plus, moi, ce qui me fait peur après, ça va être le piratage et le contrôle à distance par une autre personne de son cerveau. Ce qui
le bug, le bug du cerveau, bien connu. On avait la fracture du cerveau, maintenant c'est le bug. Alors, Walter.
Yes. It occurred to me when I was writing Hardwired that this would be a problem. I decided not to deal with it in that particular book. But yes, once you put your telephone into your head, what if someone hacks your telephone? And worse than that, actually, is that you can't get away from your boss. You can't pretend you're not home when your boss wants you to do some job. But also the issue is, I mean, who installs this? Who owns it? Do you own your own implant? Or is it owned by the company that implanted it? Who owns the software in your implant?
C'est Google qui...
Yeah, right.
On va se mettre un implant Google. Pas mal, non?
Well, Google does no evil, so I'm not worried anymore.
Donc, optimiste, pessimiste, entre les deux.
Ça va être rigolo.
Bon, donc ça va être rigolo. Bon, alors, donc voilà, là on a fait un petit tour. Je pense qu'il est temps peut-être de prendre des questions dans la salle. Si vous avez des questions, qu'elles soient des questions pratiques pour augmenter votre intelligence ou plutôt des questions philosophiques pour ne pas l'augmenter, allez-y. Questions ? À Armel, à Walter.
Bonjour. Tout ce que vous venez de dire, je l'ai retrouvé dans une œuvre dessus, enfin dans une trilogie de science-fiction de John Scalzi, où en fait, c'est, comment dire, lié à l'armée, l'augmentation du cerveau, c'est pas pour tout le monde, et on a l'interconnexion donc, avec ce qu'ils appellent les forces de colonisation, ou les brigades fantômes, donc c'est le cerveau en fait qui crée carrément l'intelligence, avec le problème sur les brigades fantômes, c'est qu'il n'y a pas de mémoire. Ils naissent, sans mémoire. Ils ont l'équivalent de 70 ans de connaissances en une heure. Et ce qui crée, en fait, quelque part, des surhommes, mais inadaptés. Alors, est-ce que, justement, pousser trop l'intelligence ne va pas décaler?
C'est quoi la référence, l'auteur et le...
John Scalzi, les brigades fantômes... Le vieil homme et la guerre, et puis le troisième, c'est la colonie Roanoke, et il en a fait un quatrième, Zoé, vu par une ado. C'est le numéro 3, vu par une ado.
D'accord, donc question, donc c'est...
Donc après, tout dépend effectivement comment on va booster cette intelligence, effectivement, si on décide de le faire au détriment de la mémoire. Après, pour moi, c'est plus vraiment de l'intelligence, parce que voilà, c'est une hypercapacité poussée à l'extrême, et si on perd l'harmonisation entre les différentes formes d'intelligence, c'est plus vraiment de l'intelligence. Ensuite, je pense plus vraiment que Google développera ces types d'implants que l'armée, parce que de toute manière, l'armée, c'est le public, il n'y a plus d'argent, donc ce sera Google.
I think there are state organs other than the army that will be very interested in this sort of technology, and intelligence agencies would, I'm sure, love to bug your brain. They would love to hack your wetware and find out what you're up to. So I think possibly some direction may be coming from there, through however many cutouts it takes to make it more anonymous. So that's decidedly an issue. In Hardwired, I described combat units, where essentially the soldiers were at some point gave up control to a program that was able to see through all of their eyes and was a very advanced tactical intelligence. And so it would tell them when to shoot and when to run and when to hide and when to leave and all of that. But on the whole, it was successful. The soldiers had a much greater success rate than even highly trained ordinary soldiers. But on the other hand, if the program decided that you, as an individual, needed to sacrifice yourself for the betterment of the entire unit, that decision was no longer under your control. And I think there's the potential for seeing a lot of that.
Oui, je voulais quand même préciser que quand je dis l'armée, j'en exclus pas Google, en sens que la guerre économique est une guerre. Hein, donc Google fait partie des capitaines de guerre. Je voulais aussi parler de la relativité de l'intelligence. On va dire, en gros, l'intelligence, si vous êtes intelligent, ça va se remarquer par le fait que vous allez acquérir dans votre société une position plus dominante que quelqu'un qui est bête, qui n'arrivera pas à s'en sortir. Alors nous, qu'est-ce qu'on nous demande actuellement d'avoir comme intelligence, les gens qui possèdent le pouvoir, c'est-à-dire en gros qui tiennent les cordons de la bourse, ce sont des gens qui ont accepté de passer des diplômes au bout d'études longues et compliquées, donc qui ont accepté très jeunes de rester assis à une table à absorber le savoir d'autrui plutôt que d'aller courir le guilledou dans la campagne. Donc c'est ce qui est actuellement promu est une forme d'intelligence composée à 90% de docilité et de capacité d'obéissance. Voilà. Est-ce que c'est ça qui sera mis en exergue? Est-ce qu'on va essayer au contraire de développer une intelligence sauvage de quelqu'un qui va déchiqueter tous ses professeurs? Je ne pense pas. Mais il y a une relativité dans la définition de l'intelligence telle qu'on la conçoit.
D'autres questions peut-être ? Donc, il y en a deux là-bas. Donc, pour info d'ailleurs, les gens de Google travaillent réellement à des implants. Hein, ils ont le projet, effectivement, il y a des Google Glass depuis un an, mais les implants, ils travaillent au même titre que les lentilles, connectées bien évidemment, hein, pour ne jamais perdre le net.
Oui, donc je suis ici. Bonjour. Donc tout d'abord, pour répondre au doute que je me souviens plus souvent, excusez-moi, mais la dame en vert avait tout à l'heure. Donc la pilule, la drogue prise pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la pervitine, qu'on appelle aussi la pilule de Göring. Donc, voilà, donc la pervitine. Et pour ce qui est donc de l'augmentation artificielle de l'intelligence, est-ce que vous pensez que les limites ou les blocages actuels sont plus dus à une incapacité technologique, ou que ce soit par des implants ou même des hormones, ou est-ce que c'est plus dû à une méconnaissance du fonctionnement du cerveau?
Armel?
J'ai pas bien compris la question, je suis désolée.
Est-ce que au fond, le fait que ces recherches ne soient pas aussi avancées qu'on pourrait l'imaginer, bien que ça avance vite, hein, est-ce que c'est dû donc à quoi ou quoi déjà donc à la... Oui.
Est-ce que c'est plus dû au fait qu'on ne sache pas exactement comment fonctionne le cerveau, oui, d'un point de vue électrique ou hormonal, ou bien est-ce que c'est dû, ou bien on sait comment ça marche, mais c'est juste qu'on n'a pas la technologie nécessaire pour pouvoir le faire?
Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que le cerveau, là, c'est sûr qu'il y a d'énormes zones d'ombre. Donc il faut qu'on continue à mieux comprendre que font les sous-populations de neurones, dans quel cas ils sont impliqués, dans quel cas ils ne le sont pas exactement, beaucoup plus finement. Pour l'instant, il y a vraiment, on n'est qu'au début de ces recherches-là. Et ensuite, les électrodes qu'on possède sont encore beaucoup trop grosses. Il faut falloir miniaturiser tout le système pour pouvoir mieux contrôler, parce que pour l'instant, les densités d'électrodes qu'on a, c'est énorme par rapport aux densités de neurones. Et si on veut pouvoir mieux s'intégrer dans les réseaux, il faut être à la même échelle. Et pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Donc il y a un peu de tout. Il faut attendre, il faut laisser le temps au temps de progresser pour y arriver.
Voilà, si les immortalistes, en fait, réussissent leur pari, si vous pouvez attendre jusqu'à 2630, ça pourrait être sympa. Voilà. Une autre question, je crois, devant, voilà. Juste ici, ou là, les deux.
Et vous parlez justement de miniaturisation, donc de choses qui sont très petites. Quelle est la part de la mécanique quantique dans tout ça? Est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce que... J'ai l'impression que dans les modèles que vous présentez, il y a beaucoup de déterminisme. Peut-être qu'on sait des choses et que donc on les déduit. Est-ce que la part de l'aléatoire, d'une façon générale, va pas amener forcément à des blocages et une impossibilité, finalement, d'aller...
En fait, dans le cerveau, il n'y a pas trop d'aléatoire. C'est vraiment, on va enregistrer dans les différentes conditions comment les circuits neuronaux s'activent. Et c'est par l'expérimentation qu'on en déduit les schémas de fonctionnement. Et ensuite, il va falloir les réactiver spécifiquement, ce qui confirmera qu'on a bien compris comment ils étaient naturellement impliqués et mis en route. Donc, je ne suis pas trop spécialisée en mécanique quantique ou en physique. Mais je pense que simplement en bio, il suffit de stimuler ou d'inhiber. Hein. C'est très basique. Hein. C'est on-off, un neurone. Et le problème, c'est qu'il y en a à 10 puissance 14. Donc, il faut bien réguler et cibler les stimulations. Une autre question, s'il vous plaît.
Bonjour. Ça marche? Oui.
On entend.
Oui, d'accord. Donc c'est peut-être un peu exagéré comme idée, mais est-ce
on
que...
On est là pour ça.
Est-ce que ça serait pas... Est-ce que vous n'avez pas peur, ou est-ce que vous pensez qu'un jour, demain, à défaut de vouloir faire trop de profit, à défaut de vouloir faire un profit exagéré, certaines multinationales qui s'occupent de ces implants-là négligent la qualité de ces implants-là?
Ah, mais tout à fait.
Comme par exemple on le fait pour la nourriture Discount et tout, etc. Donc est-ce qu'on pourrait voir demain... des multinationales qui s'occupent de ces implants-là et qui en négligent la qualité pour vouloir faire plein de profit?
Il y aura toujours des dérives à toute nouvelle technologie. Moi, je pense que ce qui me fait pas peur, la technologie ne me fait pas du tout peur. Ce qui me fait peur, c'est l'homme qui est derrière la technologie. Je pense que l'homme est un loup pour l'homme, et c'est ça qui nous perdra. C'est pas du tout l'intelligence artificielle ou la robotique, c'est l'homme. Mais c'est un point de vue personnel.
Yeah, I think, well, and not just corporations wanting to sell you cut-rate wetware, but criminal organizations. You know, they're the ones who are going to be delivering these experimental drugs to the population. which means that the population becomes experimental subjects in an uncontrolled drug test. We've already seen this a few times with custom drugs being distributed that had side effects like Parkinsonism and so forth. So, also we have the ability to print drugs is going to be coming along very shortly, so that you don't need to go to the drugstore to get your prescription. You can just print it out in your garage or somewhere. But of course, this allows you to print any other drug as well. All you need to do is download the form from the internet and have the correct precursors. So there's going to be a vast increase in uncontrolled drug testing going on among the general population. And that's one of the things we're going to see.
Donc une dernière question avant de clore le débat. Donc, le micro est là.
Bonjour. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur le lien qui existe selon vous entre l'intelligence et l'épanouissement, le bonheur. Donc, premièrement, j'aurais une question. Est-ce que vous pensez qu'augmenter notre intelligence ou nos intelligences, comme vous avez précisé l'existence de nos différentes intelligences, va augmenter notre épanouissement ou au contraire va le réduire? Et enfin, une autre question, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus tard des implants pour rendre les hommes heureux?
Tout ça en à peu près 1:30, la réponse.
Alors justement, c'était la question qu'on espérait éviter. Oui, évidemment, dans tout ça, on n'a pas parlé de la finalité. Logiquement, l'intelligence, c'est quand même une capacité de faire des choix dont le but serait d'être heureux. Quoique il y a des tas de gens dont leur but c'est de casser les pieds du voisin, leur but c'est de devenir riche, certainement pas d'être heureux. Maintenant, oui, alors la capacité au bonheur, il y a un moyen effectivement, en prenant certaines substances, de rester bloqué à un état de bonheur béat total, permanent et complet. On peut préférer ça. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé la substance qui permet de rester bloqué à ce climax. Il y a toujours une descente. Mais effectivement, la poursuite du bonheur, c'est toujours pareil, tout ça est extrêmement relatif. Si jamais vous avez une forme d'intelligence qui vous pousse à poursuivre le bonheur uniquement pour vous-même en écrabouillant les autres, est-ce que c'est souhaitable de la développer? Mais non, je crois qu'il y a vraiment un énorme hiatus entre être intelligent et être capable d'être heureux. Et là, c'est vraiment de la philo.
Donc, pour essayer de faire une réponse rapide, je pense que c'est vraiment une très très bonne question. Et c'est pour ça que dans mon livre, moi, j'avais commencé par décrire un monde où la société est idéale et construite pour que les gens soient le plus épanouis possible, une société du bonheur absolu où tout le monde serait bien. Et dans cette société, donc, où quand même on a fait un effort pour que l'intelligence des individus se développe aussi, eh ben, on arrive à un moment où quand même on arrive à s'extrapoler de l'univers qui nous entoure, à se questionner, parce que c'est une des formes d'intelligence, la prise de conscience de qu'est-ce que je fais là, ici, pourquoi. Et du coup, de remettre en cause tout ce qui est construit autour de soi et de préférer se couper du bonheur pour être libre. Donc libre, bonheur, tout ça, à mon avis, c'est des choix qui sont personnels et qui ne vont pas forcément de pair. Et ça, chacun
Walter,
choisit.
Walter, il reste à peu près 3 secondes ou 5.
Yeah, okay. People will be happy to sell you anything that they will tell you will make you happy. All right. One of the oldest ones is religion. You can achieve happiness through choice of the correct religion, and you may in fact be happy through your choice of religion. But you have to accept that religion's definition of happiness. Likewise, people will sell you drugs to make you happy. People will sell you implants to make you happy. Whether you actually become happy or not is a separate issue.
Effectivement, moi, dans mon livre, je vends du spray qui permet d'avoir des orgasmes sur mesure. On pourrait trouver facilement une variante pour le bonheur. C'est très facile, il faut juste trouver la bonne molécule qui stimule le bon groupe de neurones. Ça va arriver bientôt, vous inquiétez pas.
Donc, en vente près de chez vous. Si vous voulez vous procurer ce spray, donc vous allez à la librairie là, en fait. Et pour l'instant, vous allez vous contenter du livre d'Armel qu'elle va signer, de ceux de Catherine ou des miens, puisqu'on va les signer. Mais le spray... Bon, écoutez, pour l'année prochaine, on va essayer d'y penser. Voilà. Merci à tous et toutes. Voilà.